Je ne vais pas annoncer mon titre volontairement et je vais vous demander d'ouvrir votre Bible parce que j'aimerais que chacun ici dans ce lieu ce matin puisse se positionner et essayer d'analyser ce que ce texte peut nous enseigner. On va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre de 1 Samuel. Et on n'a pas la même perception des choses, on a des caractères différents. Vous et moi, on a des caractères différents entre nous. Et notre façon d'analyser les choses peut être parfois très différente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu voudrait te dire ce matin, toi ? On ouvre 1 Samuel 10. Alors ce texte dans 1 Samuel 9, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Il y a un jeune homme qui s'appelle Saül et qui a perdu une partie de son bétail et qui est à la recherche de ce bétail. C'est le bétail de son père, ce sont des ânes qu'il a perdu et il est en train de les rechercher. Alors Saül cherche dans différentes villes d'Israël, puis il arrive un jour dans une ville, à Mitzpah, où se trouve un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, c'est Samuel. C'est ce qu'on appelle à l'époque le voyant. À cette époque-là, on ne parle pas de prophète. Jusqu'à Samuel, on parle de voyant, parce que c'était les hommes de Dieu qui étaient capables de voir les choses que Dieu avait prévues en avance. Et c'était l'ancien nom, les voyants. Il arrive en face de Samuel, et là, Samuel, ça c'était au verset 17 du chapitre d'avant, dit « Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit, voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. » Saül n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Il est en train de s'approcher d'un homme qui a déjà une révélation de Dieu pour lui. Regardez ce qui se passe. 1 Samuel 10, verset 1er. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit par cette onction, « L'Éternel t'établit, chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent, et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de ce peuple, de son peuple par cette onction. » Il lui annonce quelques signes qui vont se réaliser. Au verset 9, un petit peu plus loin, « Saül quitta Samuel et lorsque il se retourna pour reprendre sa route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent le même jour. » Vous savez que lorsque c'est Dieu qui dit vraiment quelque chose, on ne s'engage pas sur simplement une impression, une intuition. Quand c'est Dieu, c'est clair et c'est confirmé. Et il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Et Saül voit que ce qu'a dit le prophète de la part de Dieu est vrai et confirmé par de nombreux signes, prodiges dans le cas de Saül. Alors, on arrive au verset 17. Et c'est là où je vais vous demander de vous positionner et de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Samuel convoqua le peuple auprès de l'Éternel à Mitzpah. Il dit aux Israélites, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte. Et je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, et pourtant vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut que Dieu établisse un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel par tribu et par famille. » Samuel fit avancer toutes les tribus d'Israël, l'une après l'autre. Vous comprenez, il y a du monde ce jour-là. Vous imaginez, vous êtes dans la foule. On dit, l'Éternel dit, c'était pas mon premier projet qu'il y ait un roi, mais vous l'avez demandé et je vais accepter. Je vais donc nommer un roi dans ce peuple. Et la technique qu'ils utilisent, c'est le tirage au sort à l'époque. Et donc, ils font défiler les clans, les tribus, les unes après les autres. Samuel fit avancer toutes les tribus d'Israël l'une après l'autre. Le sort désigna la tribu de Benjamin. Petite tribu. Puis il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et le sort désigna la famille de Matri. Finalement, ce fut Saül, le fils de Kish, qui fut désigné. On le chercha, mais on ne réussit pas à le trouver. Alors on interrogea de nouveau l'Éternel en demandant, y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici? Et l'Éternel répondit, oui, il se cache du côté des bagages. Ils coururent, le tirèrent de là pour le placer au milieu du peuple, et voici qu'il dépassait tout le monde la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez celui que l'Éternel a choisi, il n'a pas son pareil dans tout Israël, et tous l'acclamèrent au cri de « Vive le roi !» Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Cette histoire de ce caractère de Saül, ce caractère de... Comment vous dire? Il se cache dans les bagages. Ça vous arrive des fois de vous cacher dans les bagages? Alors moi, ma question, c'est... Est-ce que c'est spirituel ou pas? La première fois que Samuel lui a dit « Tu seras roi », la première chose qu'a répondu Saül, il a dit « Je suis trop petit, ma famille est trop petite. La famille de Benjamin, c'est rien du tout. Non, tu te trompes. Je suis trop petit. » Après, Samuel lui a versé l'onction sur lui. Samuel, il est sûr, mais Saül, lui, il n'est pas sûr. Il y a des signes qui se manifestent, qui confirment. Le jour du tirage au sort arrive et Saül se planque dans les bagages. Est-ce que c'est spirituel ou pas? Certains d'entre vous, vous allez dire, et moi je l'ai pensé aussi, il est humble quand même. Il est humble. Vous voyez, il y a ce côté de ne pas se mettre en avant. Il y en aurait d'autres qui auraient dit, c'est moi qui vais gagner le tirage au sort. Qui auraient fait venir déjà la limousine pour que tout le monde puisse admirer leur jour de gloire. C'est lui, il se planque dans les bagages. Il se doute que ça va être lui qui va être tiré au sort, mais rempli de crainte et de peur, d'humilité, de prudence, de timidité, il se cache. Ce matin, je voudrais parler de... Vous savez, les semaines passées, on a parlé de conduit par l'esprit. Vous vous rappelez, on a parlé de conduit par l'esprit. Je vous ai dit, lorsque vous voulez faire le plan de Dieu, consultez l'Éternel, cherchez la face de Dieu, cherchez les projets de Dieu. Ce matin, je voudrais vous parler de conduit par la peur, conduit par vos craintes. Parce que vous avez des craintes, vous avez des peurs. Et il y a deux points que je veux voir ce matin avec vous. Premièrement, la peur peut ressembler à l'Esprit de Dieu. Ouais. Il y a des caractéristiques de la peur qui, lorsque vous agirez en laissant parler vos craintes, on vous trouvera spirituel. Et ensuite, on verra en deuxième point pourquoi vos peurs et vos craintes n'agissent pas comme l'Esprit de Dieu. Je suis allé en mon voyage de noces en Turquie et j'étais vraiment impressionné par le nombre de personnes qui portaient des Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton à 1,50€. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que ça ressemble, ça a le look, ça a le logo. Moi, je me rappelle les deux touristes derrière moi à l'aéroport qui sont fait d'ailleurs arrêter à Roissy, pas très malin. Ils avaient d'énormes Dolce & Gabbana en bon plastique brillant, et ça sentait le faux. Les douaniers ont vu les deux touristes un peu bronzés arriver, ils ont dit « Oh, 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 par là !» Vous voyez, vous vous méfiez des contrefaçons spirituelles. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est plus profond peut-être que vous pensez. Je crois que vos peurs, si elles sont aussi présentes en vous, c'est parce que ce sont des contrefaçons de l'Esprit de Dieu. Vos peurs, ce sont des contrefaçons de l'Esprit de Dieu. Je lis dans ce texte et je suis impressionné par l'attitude de Saül. Vous savez, en plus, on peut même justifier ça spirituellement. Il y a certains qui vont dire « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » C'est vrai. Regardez, je vais vous donner un exemple pour que ça soit concret. Vous êtes dans une église. Vous avez à cœur de servir le Seigneur. Mais vous avez la trouille. Vous avez la trouille de vous tromper de service. Vous avez la peur de ne pas tenir votre engagement plus tard. Vous avez la peur que ça vous prenne trop de temps. Alors, du coup, vous dites, frère, je réfléchis. Je vais chercher la volonté de Dieu. J'attends d'avoir une conviction dans mon cœur. Alors, vous voyez, des fois, c'est vrai, des fois, c'est un peu faux. Et la contrefaçon, des fois, elle est belle. Je vais vous donner un autre cas. Et ça, c'est dans le domaine des amitiés. Vous voyez, c'est lorsque l'on est dans la famille de Dieu. Je parle vraiment de toi, enfant de Dieu, ce matin. dans tes choix, avant de t'engager, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui concerne le peuple de Dieu. Saül, il n'est pas en train de s'engager devant des inconvertis ou devant des choses de ce monde. C'est par rapport à une onction qu'il a reçue pour devant ses frères, et ce jour-là, Dieu veut le bénir. Mais je me pose cette question. Par exemple, je suis célibataire. Si je suis célibataire et que j'ai commence à éprouver un sentiment pour quelqu'un de chrétien, eh bien, je crois qu'il y a une tentation à cacher notre trouille par des aspects spirituels. Dire non, je vais jeûner, je vais prier. Je ne dis pas que c'est mal, attention, je suis en train de faire le funambule ce matin, parce que d'un côté, chercher la volonté de Dieu, faites pas n'importe quoi. Mais à l'inverse, puisque comme on a travaillé depuis plusieurs semaines, pourquoi il faut que vous laissiez conduire par le Saint-Esprit, ne vous trompez pas de la contrefaçon qu'est la peur. Et regardez qu'est-ce qu'est votre peur et qu'est-ce qu'est l'Esprit de Dieu qui vous dit « attention ». Là, je regarde dans le cas de Saül. Saül, c'est Dieu qui lui dit « je t'ai appelé ». Il a peur. Alors il dit, je suis trop petit, après on va le chercher dans les bagages, il ne se présente pas. Pourquoi il fait ça? Bon déjà, ça devait être quelque chose. Hein. Vous imaginez, tout Israël est réuni, tous les tribus, les cousins, les grands-oncles, les tatas, les tontons, tout le monde. Le grand jour, toutes les tribus sont à Mitzpah et il sait que Dieu veut le bénir. Toi c'est pareil. Je crois, tu sais que ton Dieu est ton Père et que Dieu est bon pour toi. Et que dans les différents choix de ta vie, Dieu a des bonnes choses pour toi. Alors, et la vérité, c'est que les opportunités que Dieu nous donne nous provoquent du stress. Nous provoquent du stress. Le fait que Dieu vous ait laissé libre, Dieu n'a pas fait de vous des robots, il vous a laissé libre de est-ce que vous voulez le servir dans ce domaine ou pas. Dieu vous a laissé libre de est-ce que vous allez développer et créer des amitiés avec telle ou telle personne, intégrer ce groupe d'hommes, le groupe des femmes, intégrer, je ne sais pas moi, un service quelconque, tisser des amitiés. Est-ce que vous pouvez... Et des fois, ça nous oblige à passer. La vraie raison au-dessus de nos peurs, la vraie raison, c'est que Saül, il a peur de se tromper. Parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque vous avez eu la honte à espérer quelque chose qui ne s'est pas réalisé, c'est difficile. Quand on s'est trompé une ou deux fois, après on est un peu échaudé. Hein. Et je ne sais pas, mais à la place de Saül, je me mets dans la tête. Oh, et si le prophète s'était complètement trompé? Que je me retrouve au milieu là, en plus il est grand apparemment par rapport aux autres, et que j'ai juste la honte que ça tombe à côté, alors que j'arbore un grand sourire et tout le monde va dire « Il pensait quoi lui ?» Peut-être il a peur de décevoir ses proches. Il se dit, mais si je suis choisi roi devant tout le monde, attention, hein, la situation en Israël n'est pas facile à ce moment-là. Il y a des pillages, il y a des viols, il y a des en bordure du pays des Philistins, il y a des familles qui sont massacrées. Vous lisez le chapitre d'après, vous comprenez. Et la responsabilité de celui qui va être le roi, il a intérêt d'avoir des épaules solides. Hein. Et Saül se dit, mais je ne vais pas te dire. Alors il a peur. Et peut-être que tu dis, Seigneur, c'est vrai que tu as prévu plein de bonnes choses pour moi, mais je ne suis pas sûr d'avoir les épaules assez solides. Peur de décevoir ses proches, peur de se décevoir lui-même. Il se dit, oh là là, ça veut dire que je vais devoir aller au combat contre les Philistins dans 15 jours. Je n'ai pas préparé ma condition physique. Est-ce que c'est sûr que Dieu va me soutenir? Je crois que le problème de Saül, c'est qu'il a peur de souffrir. Mais on est tous pareils. On a peur de se tromper et on a peur de souffrir. Si je me trompe, si je connais un échec, ça va me faire tellement mal que je préfère ne pas prendre le risque. Ça vous est jamais arrivé de dire ça ? Je vais refuser cette opportunité au cas où ça se finisse mal. Et vous savez, quand vous faites comme ça, je crois que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Ça paraît très sage, très prudent. Même peut-être le pasteur viendra vous voir en disant « Oh, quelle femme de Dieu, quel homme de Dieu, toujours en train de réfléchir, toujours en train de prier, chercher la volonté de Dieu. » Mais je ne suis pas sûr. Par exemple, je vous donne un exemple et je veux revenir là-dessus parce qu'on est une église jeune et c'est un problème pour beaucoup, beaucoup de personnes. Le problème notamment du célibat, et je veux volontairement, parce que quand je préparais ce message, je l'avais particulièrement à cœur. C'est pas facile. Les années passent, il y a le stress qui augmente. Le stress de dire « Seigneur, est-ce que tu as prévu pour moi quelqu'un ?» Tu es un jeune garçon, tu dis « Seigneur, est-ce que tu es sûr ?» Les années passent, tu es un peu moins jeune, et tu dis « Pourquoi, Seigneur ? Est-ce que j'ai raté une opportunité ? Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que... » Et peut-être tu as eu des rejets. On t'a peut-être dit non, une fois où tu avais aimé. Alors du coup, la tension, elle monte dans ton cœur. Moi, j'entends des prières du genre « Seigneur, et c'est beau, enfin, je veux pas vraiment parce que j'ai prié ça aussi pendant suffisamment de temps. Je crois que c'est des belles prières, mais j'entends des prières du genre que tu fais monter tout seul un jour dans ton lit. « Seigneur, aide-moi à rester seul. » Et c'est spirituel, vous voyez, « Seigneur, aide-moi à rester seul. » Mais j'entends pas beaucoup de prières du genre « Seigneur, aide-moi à guérir si je me prends un râteau. » Parce que quelque part, on préfère toujours prendre le zéro risque. Et ça paraît plus spirituel de dire « Seigneur, aide-moi à mourir en paix » plutôt que de dire « Seigneur, aide-moi à prendre le risque de vivre. » Alors là, je parle bien de personnes qui, comme Saül, sont entourées de chrétiens dans un milieu protégé. Pourquoi ? Quel est le risque ? Quel est le risque ? Eh bien, on va le voir. C'est le deuxième point que je veux voir avec vous, c'est la peur. Pourquoi ça n'agit pas selon l'esprit ? Pourquoi la peur n'agit pas selon l'esprit ? Parce que premièrement, la peur va te faire manquer des opportunités. Je me suis dit, c'est Saül que Dieu a choisi ce jour-là. Saül, c'est il a attendu pendant des années, c'est aujourd'hui son jour. Et Saül est dans les bagages. Et je me dis, c'est décevant. Alors c'est peut-être de l'humilité, et j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui, mais c'est quand même décevant. Parce que ce jour-là, son Père dans le ciel veut qu'il fasse la fête. Et si jamais Dieu en trouve une petite porte et que tout de suite tu la refermes en disant « Seigneur, je ne prends pas le risque. » Comment va faire Dieu pour te bénir, Saül ? Qu'est-ce que tu veux ? Si c'est Dieu qui a prévu que tu sois le roi, qui es-tu pour dire « Seigneur, je ne peux pas prendre ?» Des fois, lorsqu'on a attendu pendant longtemps et que la bénédiction arrive, on réagit mal. On réagit, mais de façon bizarre dans notre tête. Moi, j'ai eu ce choc-là. J'ai laissé mon petit garçon 5 jours à papy et mamie. Il a des papy et mamie formidables. Il était dans un petit village de montagne. Il était heureux, chouchouté. Il allait où il voulait. Et il a passé 5 journées formidables. Loin de papa et maman, juste 5 jours. Quand papa et maman sont arrivés, je suis traumatisé moi-même. J'imagine comment Dieu doit être traumatisé quand il doit réagir face à tes peurs. On arrive pour un peu par surprise, vous voyez, l'enfant il sait pas trop la notion du temps. Le jour où papa et maman frappent à la porte, on ouvre, il me voit, il fait étale avec un petit cadeau. Et là, vous savez ce qu'il fait ? Il a bugué. Il s'est retourné et il est parti pleurer. Alors, un moment d'émotion, je me dis, est-ce que c'est contre moi ? Non. Et après, il revenait, il voulait... Vous voyez, c'était très bizarre. Il voulait plonger dans mes bras, il pleurait en même temps. Je dis, mais cet enfant, c'est un enfant abandonné ou quoi ? Mais on a des réflexes d'enfant battu, hein, avec Dieu. Dieu te fait attendre le jour où il te... Non, Seigneur, je ne veux pas, je vais avoir mal. Et si, Seigneur, je m'engage et qu'après, j'ai encore un échec ? Et c'est dommage, vous voyez, parce que ce qui est Dieu pour toi, Quel est le risque que tu prends à le servir avec des frères et des sœurs? Des fois, on se pose des questions, mais alors super spirituel, Seigneur, donne-moi, où est-ce que je dois faire? Ouais, mais des fois, Dieu est simple, quoi. Si c'est une opportunité que Dieu te présente, que ce n'est pas fait pour nourrir ton côté charnel, que c'est fait vraiment pour dans les règles selon Dieu. Mais si la porte s'ouvre, mais dis amen et prends. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que après, avec le temps, regardez si Saül n'avait pas été resté planqué dans les bagages et que Dieu n'avait pas insisté. Vous avez vu, Dieu a dû insister. Hein. Allez le chercher, il est dans les bagages. En plus, il a eu plus la honte, à mon avis, à cause de ça. Mais bon, ils sont allés le tirer, etc., le sortir des bagages. Si Dieu n'avait pas insisté, Saül, toute sa vie, aurait été ronchon en disant « Le prophète, il m'avait dit que j'étais roi et j'ai pas été roi. Dieu, il m'avait donné des signes comme quoi il voulait mon bonheur, il n'a pas fait mon bonheur. » Et moi, je suis désolé, mais ça aurait pas été la faute de Dieu, mes amis. Ça aurait été la faute de la crainte, les craintes de Saül qui auront vampirisé le plan de Dieu pour lui. Vous n'avez pas le droit de dire que vos craintes sont suffisamment spirituelles pour manger les bons projets que Dieu a pour vous. Je sais que la vie est dure et que souvent on est déçu. Moi, je suis comme vous, je déteste souffrir. C'est un risque chaque jour. Mais vivre, c'est un risque. Quand vous sortez de votre maison, vous prenez un risque. Vous prenez un risque qu'il y ait un camion fou qui n'ait pas fait ses réglages, qui n'ait pas de frein ce jour-là et qui défonce le portail à côté de vous et qui vous renverse et vous mourrez. Il y a le risque. Il y a le risque à chaque fois que vous prenez le métro que vous vous fassiez agresser par quelqu'un de tordu. Il y a le risque. Maintenant, comment vous allez vivre? Et regardez ce que Jésus dit à ses amis. Il dit « Qui de vous ?» par ses inquiétudes, par ses craintes, par ses peurs, peut rajouter même une toute petite longueur à la durée de sa vie. C'est dans Matthieu 6. Et vous le savez, ça. Je vous le relis parce que ce matin, avant de vous quitter, je veux que ça rentre. C'est simple ce matin, mais vivez-le, vivons-le, parce que je pense que le Père Céleste doit être frustré d'avoir l'impression de vivre qu'avec des enfants battus. À chaque fois qu'il veut nous donner quelque chose, on est en train d'imaginer quel truc négatif qui pourrait nous arriver derrière. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger et ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Mais la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Le corps ne vaut-il pas plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce de quelques instants? Et à la fin, il est dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Il y a des moments où, enfant de Dieu, et je veux faire, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, je ne dis pas faites pas n'importe quoi, je ne vous dis pas de foncer, surtout foncer lorsque vous ne consultez pas l'Éternel pour des projets qui ne viennent pas de lui, mais s'il s'agit de quelque chose que vous faites avec à la base qui n'est pas illégitime. Voilà, je pense que c'est pouvoir servir Dieu, c'est pas illégitime. Pouvoir avoir des amis à l'église, c'est pas illégitime. Pouvoir s'engager sentimentalement avec quelqu'un, c'est pas illégitime, à condition que ça soit dans le Seigneur. Parce que moi j'ai peur, et je termine là-dessus, c'est que un jour tes craintes te rendent amer. Et que tu reproches à Dieu des choses qu'il n'aurait pas faites pour toi et qu'en fait, tu n'aurais pas voulu accepter de lui. Les craintes, ça va détruire la vie de Saül. Saül n'aura jamais réglé son problème par rapport à ses angoisses, ses craintes, sa peur de ne pas assurer. Ça va le dévorer. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai eu cette révélation ce matin alors que j'étais en train de réécrire mes notes. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a fait tilt dans ce qu'on a lu. Il était comment, Saül? Il était grand. Il était grand et il se voyait tout petit. Alors vous allez me dire, c'est spirituel? Non, je ne crois pas. Parce que Dieu l'a fait grand, il est grand. Point. Il n'y a aucune gloire à l'homme, c'est gloire à Dieu. Point. Et pourquoi je dis ça? Parce que plus tard, quand il va être roi, Parce que le plan de Dieu s'accomplit, heureusement. Des fois, Dieu nous aide malgré nos craintes. Hein. Et c'est un bon encouragement pour vous tous qui vous dites « Oh, est-ce que j'ai raté le plan de Dieu ?» Et que du coup, Dieu, quand il veut vraiment, il fait que ça passe quand même. Heureusement, Dieu est Dieu. Vous perdez du temps, vous gâchez la joie de la journée que le Seigneur a faite. Je suis sûr, hein, j'ai encore une allusion, mais si je demandais combien sont passés à côté de la joie de leur journée de mariage pour des inquiétudes débiles, et vous seriez très nombreux à lever la main. Et si c'était à refaire, vous diriez « Oh là là, mais finalement, les choix à la crème, tant pis, enfin, franchement, les choix à la crème. » Mais ça vous a mangé votre mariage pour des choux à la crème que, vous, franchement, vous n'avez plus aucun souvenir. Bon, je reviens, je me suis perdu, excusez-moi. Vous voyez l'idée, on va avoir des regrets, on va dire « Seigneur, pourquoi ?» Saül, oui, j'étais à Saül. C'était ma conclusion par rapport à Saül. Il va être devant l'armée qui arrive devant lui. Vous savez qu'il y a une armée. Tout le peuple lui met la pression parce qu'il n'est pas le seul à craindre. Il y a tous qui sont en train de faire des glaglaglag, des castagnettes avec leurs genoux. Et Saül, il fait des castagnettes aussi avec ses genoux. Alors que Dieu a dit, je viendrai faire le sacrifice. Attends-moi patiemment. Attends-moi patiemment. Samuel a dit, j'arrive, attends-moi. Samuel arrive, le sacrifice a déjà été fait. Saül n'a pas pu attendre. Pourquoi il n'a pas pu attendre? Il a dit, j'avais la trouille. Un petit peu plus loin, et c'était ça ma révélation de ce matin, il y a un géant qui se présente. Il y a un géant qui se présente. Ce géant, vous connaissez son nom. Il s'appelait Goliath. Et je vois que c'est un petit Minus qui va aller l'affronter. Parce que la Bible dit que quand David a dit « Moi, je me battrai au nom de l'Éternel des armées, pas au nom de David !» Et c'est ça que Saül n'a pas compris depuis le début. C'est pas au sujet de lui, c'est au sujet de Dieu et du projet de Dieu pour sa vie. C'est pas au sujet de ton choix de rester célibataire ou de marier, etc. C'est au sujet, qu'est-ce que Dieu a pour toi? Rentre dans les projets de Dieu. Vous voyez, Saül, il est là, et David a la sagesse de dire, c'est pas moi qui vais combattre. Bien sûr, j'y vais. J'ai une grande chance de... Statistiquement, j'ai même à peu près aucune chance. Mais c'est au nom de l'Éternel que j'y vais. Et Saül n'a pas ce réflexe-là. Et Saül, lui, il est en train d'attendre, il est derrière son bureau en train de faire des tactiques militaires, en train de se dire « Ah, est-ce que c'est le bon moment pour ceci, cela, etc. » Il arrive, Saül reçoit David dans ses appartements, vous rappelez le texte? Et qu'est-ce que va faire Saül? Il va lui filer à David une armure énorme. L'armure de qui? L'armure de l'homme qui était le plus grand en Israël et qui s'appelait Saül. Et qui était, à mon avis, appelé par Dieu pour défoncer Goliath. Sauf que Saül, qui est le plus grand et le seul qui pouvait faire face à Goliath, il est grand extérieurement et à l'intérieur, ses craintes font de lui un tout petit. Alors que David, il va essayer l'armure, il va dire « Mais je ne peux pas mettre ça, c'est 10 fois trop grand. » Il va prendre ses 3 petits cailloux, ses 5 petits cailloux, là, et il va dire « Si l'Éternel est avec moi, Goliath ou pas, ça va passer. » Vous voyez la différence de cœur? La différence de cœur? Et qui c'est qui va perdre la royauté? Saül. Et il va terminer sa vie comment? Jaloux de ce que David n'a pas les mêmes craintes que lui. Il va terminer sa vie en train de poursuivre David, en train de se dire « Mais est-ce que je ne vais pas mourir ?» À la fin de sa vie, il va aller même aller voir une voyante puisque Dieu ne lui parle plus, il va aller voir une magicienne. Il est mangé, rongé, dévoré par ses peurs. C'est un homme que Dieu avait béni. Un homme que Dieu avait appelé avec un bon projet de Dieu, il va être dévoré par ses craintes. Alors que David, qui a plein d'autres défauts, David, il va aller trop vite dans certains choix avec Bathsheba, même c'est des péchés très très graves. Mais vous voyez, à chaque fois, David va avoir des conséquences, il va être puni pour ses erreurs. Mais vous voyez, la royauté va rester sur la lignée de David. Parce que David, malgré toutes ses erreurs, il a une seule chose que Dieu compte. Cet homme-là, est-ce qu'il s'appuie sur moi ou pas? Cette femme-là, est-ce qu'elle s'appuie sur moi ou pas? Est-ce qu'elle se cache derrière ses peurs ou pas? Et Saül, toute sa vie, il a affronté ses bêtises en face. Il a dit, j'ai péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Rends-moi la joie de ton salut, j'ai tout raté. Saül, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure et il dit, j'ai tout raté. Mais il ne demande pas pardon à Dieu. Il n'assume pas en face. Il va rater les opportunités de Dieu les unes après les autres. Si bien qu'un jour, Samuel va lui dire « Je suis désolé, la royauté passe à un autre. » Mes amis, vous êtes les filles, les fils du roi des rois. Vous lisez, vous le témoignez, vous le croyez pour les autres. Dieu prend soin. Il est dit, avant même qu'une prière soit sur ta bouche, il sait. Votre Père céleste, est dans le même texte, sait de quoi vous avez besoin. Alors je vous demande une chose. Arrêtons cette attitude d'enfant battu. À imaginer le pire avant que Dieu ait le temps de nous donner le meilleur. Parce que Dieu veut de donner des bonnes choses à ses enfants. Parfois, vous allez vivre des épreuves, mais je vous en supplie, il y a des fenêtres dans votre vie dans lesquelles Dieu bénit. Allez pas les noircir. J'avais à cœur de vous laisser sur ce verset. Vous le connaissez, hein ? Vous le connaissez. C'est le verset que Jean donne à la fin de son épître dans 1 Jean. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble ? Je vais demander à l'équipe de louanges de venir sur le devant. Fermons les yeux. Regardez ce que dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dans l'amour, il n'y a pas de place à la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Seigneur, est-ce que je t'aime assez ? Est-ce que je sais que tu m'aimes assez pour ne pas avoir peur du lendemain ? Vos craintes, c'est une forme d'immaturité dans votre confiance à Dieu. Vos inquiétudes ne font pas de vous quelqu'un de prudent, vos inquiétudes font de vous quelqu'un qui est plus enfantin, moins mature spirituellement. Dieu est Dieu. Il a des projets pour ta vie. Il sait ce qu'il fait. Alléluia.
Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Ce matin, est-ce qu'on peut donner au Seigneur, vraiment déposer à ses pieds nos fardeaux, nos craintes, nos peurs ? Il y a une prise de risque avec Dieu. Il y a une prise de risque. Et est-ce que ce matin, tu es prêt à dire, Seigneur, il y a des choses, des choix que je vais devoir assumer, même si j'en suis pas sûr, même si j'ai peur d'être déçu, peur d'affronter un échec ? Seigneur, est-ce qu'on peut se lever ensemble ? On va reprendre ce cœur qui dit « Prends-moi tel que je suis, Seigneur, Sauveur qui déplace les montagnes. »
Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauve, y déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.